Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron.
Je parlerai d'abord des différents rôles.
Alors, mon cher Olivier, vous avez parlé pendant le générique. Bonjour, ça va?
Bonjour Fabrice.
Ah oui, c'est Olivier Coudron qui nous dit de ce dont il va parler. Parce qu'on prépare l'émission 3 secondes avant, c'est pendant le générique. Vous voyez, il est...
Oui, bah oui, bah oui, mais parce qu'il n'y a rien de plus simple et naturel que ce qui vient spontanément.
Mais oui, et puis votre expertise elle est là, donc vous la partagez au plus grand nombre. Mais comme quoi, ce qui prouve que vous maîtrisez bien les sujets. Merci à vous, chers auditeurs, de nous rejoindre dans cette émission Neuronutrition chaque mercredi entre 11h et midi sur Nutri Radio, et puis émission aussi que vous retrouvez en podcast tout de suite après sa diffusion sur le live, que ce soit sur nutriradio.fr dans la partie médias podcast. Si vous avez l'application, bah, vous le savez, ça fonctionne aussi, mais également les autres plateformes comme Spotify, comme Apple, comme Deezer. Et n'hésitez pas, Apple Podcast, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour ne rien rater de tous ces contenus. Je commence cette émission comme d'habitude en remerciant notre partenaire sans qui nous ne serions rien, nous serions dehors sous la pluie, sans parapluie, sans ciré, sans bottes, on serait là comme des misérables. On rajoute un petit peu. Non, en tout cas, très sérieusement, on remercie notre partenaire, laboratoire Lepivitz, laboratoire engagé pour une nutraceutique de qualité, évidemment, et qui, en nous soutenant, participe aussi à la démocratisation de ces contenus et au partage du savoir, et Dieu sait s'il en sait des choses, le docteur Olivier Coudron. Et il n'y a pas de lien, par contre, je rappelle, entre le docteur Olivier Coudron et le sponsor. Hein, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors ça, c'est très important de le souligner, mais il faut un sponsor, comme chaque émission. Et donc, on les salue bien. Et on choisit aussi nos sponsors, attention. On ne prend pas n'importe qui. Si ce n'est pas de la qualité, on n'en veut pas. Sachez-le. Donc, docteur Coudron, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Est-ce que vous avez bien dormi?
Ah, bonne question, bonne introduction à toute mélatonine. Et oui, j'ai très bien dormi, merci Fabrice. Et comme je le disais, j'avais envie de partager avec les auditeurs un petit exposé sur la mélatonine, en rappelant que cette mélatonine, eh bien, c'est une petite hormone fabriquée par le cerveau et qui est surtout connue parce qu'on la considère, à juste titre, comme l'hormone du sommeil, parce qu'elle est surtout libérée dans le cerveau durant la nuit et pas du tout durant le jour, en tout cas pas par le cerveau. Et elle contribue, c'est vrai, à un bon sommeil, un sommeil de qualité, un sommeil efficace, réparateur. Il se passe plein de choses dans le sommeil, dans notre cerveau, dans notre métabolisme. Et la mélatonine, eh bien, elle orchestre un petit peu tout ça. Moi, je la compare souvent à un chef d'orchestre, voilà, qui a un grand orchestre symphonique, et elle bat le tempo. Et ça, c'est son deuxième rôle, c'est son rôle de rythme biologique. Donc, elle joue un rôle comme hormone du sommeil, oui, elle favorise toutes les fonctions cérébrales, en tout cas un grand nombre d'entre elles. Et son deuxième rôle, chef d'orchestre, des horloges. Chaque cellule, chaque organe, chaque fonction de notre corps, et ça c'est fabuleux, a un rythme biologique sur 24 heures. Et tous ces rythmes, eh bien, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont différents. Les horloges, elles peuvent se dérégler. Le foie, l'hippocampe, l'amygdale cérébrale, la force musculaire de la main gauche ou bien de la main droite. Tout ça, ce sont des horloges différentes. Mais vous imaginez, s'il n'y avait pas un chef d'orchestre pour donner le tempo, eh bien, ça serait une cacophonie. Ça, c'est l'un des grands rôles de la mélatonine, de donner le tempo, le tic-tac, et donc de mettre les pendules à l'heure. Voilà, c'est quand même fabuleux. Vous trouvez pas, Fabrice?
Ah bah oui, non mais évidemment. Mais alors la mélatonine, moi j'ai plein de questions parce c'est vrai qu'on en parle, hein, de temps en temps. On voit plein de campagnes publicitaires aussi pour les personnes qui ont du mal à dormir, la mélatonine, des gélules de mélatonine. On ne sait plus si c'est du médicament, si c'est du complément alimentaire.
Eh bien, c'est les deux. Mais d'abord, avant de partir sur ce sujet, il faudrait encore amplifier, si j'avais 2 heures, je vous en parlerai pendant 2 heures, parce que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone qui donne les rythmes biologiques, en tout cas pour nos horloges centrales, ce qu'on appelle les horloges centrales, principalement le système nerveux et endocrinien, mais ça a plein de fonctions. Plein de fonctions, c'est antioxydant, c'est antalgique, par exemple, dans certaines douleurs chroniques, on utilise de la mélatonine, c'est antitumoral, c'est régulateur de l'immunité. On a beaucoup parlé de la mélatonine dans les périodes de Covid. Il y a énormément de fonctions, c'est juste une petite merveille. Alors, cette mélatonine, elle est, j'insiste beaucoup là-dessus, elle est naturellement produite par la glande pinéale, par l'épiphyse, et libérée la nuit. Et la première chose, avant de parler des compléments alimentaires ou des médicaments, première chose, c'est est-ce que je prends soin de ma mélatonine? Est-ce que je me donne les moyens de lui permettre d'être bien synthétisée et bien libérée au bon moment? C'est deux choses différentes. Bien synthétisée. Alors, il faut une alimentation vraiment de type végétal, variée, équilibrée, méditerranéenne, bien équilibrée, bien rythmée. Il ne faut pas manger trop tard le soir pour avoir une bonne production endogène de notre mélatonine, des repas pas trop copieux et pas trop tardifs. Par exemple, si on prend un repas à 23 heures avec les deux ennemis de la mélatonine, c'est trop de sucre rapide le soir tardivement et l'alcool, eh bien là, la mélatonine, elle va pas être libérée, elle va être mal synthétisée. Donc, c'est vraiment apprendre à avoir une alimentation saine et rythmée, chronobiologique, pour être en bonne santé, mais notamment aussi au niveau de la mélatonine.
Est-ce que dans... Allez-y, mon cher Olivier.
Je disais, c'est important à tous les âges de la vie, mais à partir de 50 ans, cette production de mélatonine, elle devient de plus en plus difficile, elle décroît. C'est la première hormone à décliner dans la sénescence hormonale. Et ça, ça va entraîner en cascade, évidemment, des problèmes de rythme, de mauvais sommeil, potentiellement. Donc, c'est important, à partir de 50 ans, de vraiment faire très attention à ce que je dis.
on peut la doser, cette mélatonine, pour savoir si on est...
Oui. Moi, il y a 40 ans que je m'intéresse à la mélatonine et dans ma consultation de neurosciences à Paris, je faisais les dosages de la mélatonine. Alors, ce sont des dosages salivaires qu'on a beaucoup fait. On fait des petits prélèvements de salive tout au long de la nuit de 21h au réveil. Et puis, on peut voir comment on fabrique cette mélatonine. On peut aussi, et c'est très intéressant, votre question, Fabrice, c'est on peut la doser aussi dans les urines. On a un marqueur qu'on appelle la 6-sulfatoxymélatonine. C'est un témoin de la quantité totale de mélatonine qui a été produite. Donc, c'est plus simple de mesurer la nuit, ce qui a été produit la nuit, simple recueil d'urine du matin. Et ça, on l'utilise plus, par exemple, pour les infirmières en travail posté, par exemple, les travail de nuit, des gens qui ont un décalage horaire, les navigants, peuvent avoir des vraies altérations de la production de mélatonine. Ou après 50 ans, ou chez les femmes qui ont une ménopause, on peut avoir une baisse plus importante de mélatonine. Et cette quantité reflète bien notre capacité, notre potentiel à gérer toutes les fonctions de la mélatonine. Donc, c'est important de l'évaluer. Par exemple, je ne veux pas inquiéter les gens, mais on sait que les faibles productions de sulfatoxymélatonine nocturne sont corrélées à une plus grande incidence des cancers du sein. Donc, c'est intéressant d'en prendre soin parce que ça fait partie des paramètres à chouchouter.
Ah, d'accord. Très bien. Justement, j'allais vous demander les conséquences. Est-ce que un dérèglement de la mélatonine, une faible production de la mélatonine, puisqu'en plus, à partir de 50 ans, vous avez dit que voilà, ça chute, il y a des incidences sur la santé autres que les troubles du sommeil?
Oui, tout à fait. Bien sûr, le premier auquel on pense, c'est le sommeil. Mais c'est pour ça que je prenais le temps d'expliquer toutes les nombreuses fonctions de la mélatonine, car ça va avoir un impact sur le système cardiovasculaire, la pression artérielle, la cancérogénèse, j'en parlais, sur même les bouffées de chaleur. La mélatonine fait baisser la température centrale d'un demi degré. Et donc, ça peut, chez certaines patientes, pas tout le monde, mais ça peut participer à la meilleure gestion des bouffées de chaleur nocturnes, post-ménopausiques, par exemple. Et puis, c'est un grand vecteur de l'immunité réussie. On a des récepteurs sur le système immunitaire, récepteurs M1 et M2 à la mélatonine, parce que ça dialogue et ça explique finalement à nos cellules immunocompétentes à quel moment et comment elles doivent agir. C'est un chef d'orchestre, encore une fois. Donc, c'est les conséquences d'une baisse de production ou bien d'un décalage de production, hein, pour ceux qui regardent notamment des écrans lumineux le soir, et ça, je suis un grand Don Quichotte, je me bats contre des moulins à vent parfois. Et là, c'est contre les écrans tardifs le soir, parce que c'est un grand, grand destructeur de cette production naturelle de mélatonine.
On marque une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, mon cher Olivier Coudron.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clinabel, aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Olivier Coudron sur Nutri Radio qui nous parle de la mélatonine. Mélatonine est cerveau, alors on sait qu'elle est sécrétée par la glande pinéale, mais on la retrouve aussi, il me semble, dans l'intestin. Est-ce qu'on peut dire que la mélatonine est aussi une hormone digestive ou immunitaire?
Alors, c'est une hormone, c'est une molécule qui a beaucoup de fonctions. Elle a une fonction hormonale et notamment de synchroniseur et de médiateur de toutes les fonctions immunitaires, etc. On la retrouve fabriquée par l'os, on la retrouve fabriquée par l'intestin et aussi dans d'autres petits organes accessoires. Elle est surtout connue pour le cerveau, mais c'est vrai que dans l'intestin, elle va jouer un rôle comme toutes ces cette famille de neurotransmetteurs, la sérotonine et la mélatonine jouent un rôle dans la sensibilité viscérale et dans le transit. Alors, ces indolamines, la sérotonine et la mélatonine, ce sont des molécules qui peuvent être aussi métabolisées dans des médiateurs de l'inflammation. Ça joue des rôles très complexes, comme on l'a vu, avec des récepteurs à la fois sur les cellules nerveuses de l'intestin, sur les cellules immunitaires, qu'on appelle le GALT, et sur les voies de la douleur de l'intestin. Donc, c'est extrêmement important, y compris dans le corps, en périphérie, tout à fait.
Alors, on peut aborder maintenant, enfin, je ne sais pas comment vous avez prévu de poursuivre cette émission, mon cher Olivier.
J'ai rien prévu.
Mais alors, parfait, ça tombe bien, parce que ça veut dire que je peux vous poser des questions un petit peu qui me viennent en tête, mais on dit souvent donc c'est l'hormone du sommeil, et vous avez montré que c'était un peu réducteur, qu'elle était vraiment un chef d'orchestre. Mais si on revient sur les compléments de mélatonine qui sont en vente libre, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un miroir aux alouettes? Quelles sont les erreurs fréquentes que vous voyez dans leur usage? Parce qu'il y en a pour qui ils vont dire « ouais non, ça sert à rien », d'autres qui vont surdoser comme ça. Donc surtout, faites très attention d'ailleurs quand vous démarrez une complémentation, parce que typiquement dans le cadre de la mélatonine, au-delà d'un certain seuil, ça devient un médicament et au-delà, enfin voilà, il faut vraiment se renseigner auprès de son professionnel de santé.
Tout à fait. Alors, trois façons de prendre soin de sa production de mélatonine. D'abord, avoir une bonne hygiène alimentaire, comme je le disais, avoir un très bon rituel de vie, c'est-à-dire de bien s'exposer à la lumière le matin et de s'exposer à l'obscurité la nuit, vraie obscurité, et pas d'écran le soir après 21h30, 22h, c'est absolu. Ça, c'est la première chose à faire. Bien prendre du magnésium, combler ses déficits éventuels en micronutriments, en vitamines B6, en zinc. Pour faire de la mélatonine, il faut une très bonne méthylation. Et la méthylation, ça consomme des vitamines B2, B6, B9, B12, etc. Donc, ça, c'est se donner les moyens d'avoir une bonne santé micronutritionnelle et alimentaire pour que ça puisse fonctionner. Et puis, si ça suffit pas, parce que après 50 ans, on a vu que ça pouvait être un peu précaire. Là, on a en effet soit les compléments alimentaires, moins de 1,99 mg, donc on est moins de 2 mg, qui est le seuil à partir duquel, en tout cas en France, parce que d'un pays à l'autre, ça change, mais à partir duquel on passe dans le statut de médicament. Alors, ce qu'il faut savoir, Fabrice, c'est que dans le domaine du complément alimentaire, on va trouver deux formes, on va dire chimiques ou galéniques. Il y a la mélatonine, ce qu'on appelle la libération immédiate. Donc, quand on la prend, par exemple, sous la langue ou qu'on prend un petit comprimé avec 1 mg, vous voyez, c'est des chiffres. Je ne donne pas de recette ici, hein, je donne des indications, de l'information neutre, scientifique. Quand on prend un peu de mélatonine à 1 mg et que c'est immédiatement libéré, ce qui est le cas d'une mélatonine qui n'est pas protégée particulièrement dans la forme du comprimé ou de la goutte ou que sais-je, alors on va avoir un effet qui est un effet de resynchronisation des horloges. Ça remet les pendules à l'heure. Il s'agit, on le prend en général une demi-heure ou une heure avant l'heure souhaitée d'endormissement pour remettre les pendules à l'heure. C'est typiquement ce qu'on prend quand on fait un jet lag, on fait un New York-Paris. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle les libérations prolongées. Et ça, c'est très souvent les médicaments qui utilisent cette forme, mais pas seulement. Libération prolongée ou libération contrôlée et différée. En ce cas-là, on prend par exemple 1,9 mg, mais le comprimé, par exemple, va se libérer petit à petit sur 7, 6, 7, 8 heures. Et donc là, ça reproduit un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. Ça reproduit un petit peu la physiologie. Et ça, c'est une indication plutôt pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Alors, c'est donc utilisé sous forme de médicaments. Hein. Il y a des médicaments qui ont des autorisations de mise sur le marché en Europe pour les troubles du sommeil après 50 ans. Ça marche assez bien, pas toujours, mais ça marche assez bien. Pour certains troubles neuropsychiatriques, comme des dépressions de la personne âgée. Et puis, chez les plus jeunes aussi, dans l'accompagnement des troubles du sommeil, chez les troubles neurodéveloppementaux, les troubles du spectre autistique, par exemple, on a une autorisation parce que c'est une substance qui est active sur ces troubles du sommeil dans ces pathologies de l'enfance.
Wow, ouais, faut c'est du lourd hein, quand même. C'est pas. Est-ce que ça influence, pardon, sans transition, est-ce que ça peut influencer un déficit en mélatonine, la baisse de libido par exemple, ou d'autres hormones comme la testostérone ou l'équilibre estrogène, progestérone chez la femme?
Alors, vous imaginez bien qu'en tant que chef d'orchestre hormonal, parce que ça supervise toutes les horloges et donc toutes les horloges de notre système endocrinien, et c'est en effet l'une des premières constatation faite chez la brebis et chez l'animal il y a 50-60 ans, c'était l'importance de la mélatonine dans les cycles de la reproduction et dans la fertilité, dans évidemment l'œstrus. Hein, donc l'œstrus, c'est l'équivalent des cycles de fertilité et de la libido du rut chez l'animal. Et donc en effet, c'est très très connu et très ancien, l'influence de cette mélatonine sur cet équilibre hormonal. Donc chez l'homme, alors la libido chez l'homme est beaucoup plus complexe, hein, ça ne se résume absolument pas à j'ai de la mélatonine ou pas, mais c'est vrai que des dysfonctions de la mélatonine, des écrans lumineux le soir, des bloqueurs de la mélatonine, comme par exemple des médicaments bêta-bloquants qui empêchent la mélatonine d'être libérée, là, tout ça, ça a un impact sur la libido. On connaît beaucoup d'hommes qui prennent des bêta-bloqueurs pour leur fonction cardiaque, et c'est très bien, mais s'ils le prennent le soir, eh bien, ce qui est une mauvaise idée, ils vont bloquer la mélatonine et ça augmente les troubles de la libido, les troubles érectiles et les troubles de la libido.
Ok, est-ce qu'on peut parler aussi de peut-être parler de cofacteurs? Si on parle de complémentation, il peut y avoir aussi peut-être des cofacteurs et d'autres compléments à prendre pour aller rendre ça plus efficace?
Oui, bien évidemment, on prend jamais une stratégie clé en main. Là, c'est une approche un peu symptomatique. Sinon, le mieux, c'est d'avoir une approche globale. C'est ce qu'on propose dans les formations de SIN, d'avoir une approche de santé globale, intégrative. Et donc, plutôt que donner que de la mélatonine, on essaie de voir si on mange bien, si on a bien des rituels d'endormissement, si on ne regarde pas des écrans, si on a assez de magnésium ou de cofacteurs de la méthylation, comme je le disais. Mais après, il y a des synergies. Par exemple, chez un patient qui a une hypertension artérielle, une dysfonction du lit vasculaire, de l'endothélium vasculaire, alors on pourra donner la mélatonine, plus des acides gras oméga-3, par exemple, en complément de ces traitements médicamenteux habituels. Si l'on a un trouble de l'immunité, là on est en pleine épidémie de grippe en ce moment, eh bien on sait que d'avoir une bonne production de mélatonine la nuit, ça optimise la réparation des lymphocytes T, hein, toute la lignée des lymphocytes T. Et en synergie, on pourrait avoir le matin au réveil, moi ce que je trouve la deuxième grande hormone vitamine qui est complémentaire à la mélatonine, c'est la vitamine D. La vitamine D le matin, eh bien elle est un très 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 bon partenaire de la mélatonine et par exemple sur la fonction immunitaire. Donc en effet, il y a plein de synergies. Là, je peux pas toutes les développer, mais celles et ceux qui s'intéressent à approfondir, venez au site du SIN, on a des formations là-dessus très très approfondies, si ça vous intéresse bien évidemment, de vous former.
Et sur, vous savez, par exemple, la vitamine D, on dit qu'il ne faut pas la prendre avec de l'eau, que ça ne sert à rien, il y a des formes à privilégier, il faut l'associer à un corps gras, c'est pareil pour la mélatonine?
Non, non. Alors, la mélatonine, elle n'est pas liposoluble uniquement. Elle est ambivalente. Elle est, pardon. Elle peut se passer les membranes à la fois de façon lipidique et excusez-moi, mon cher Fabrice.
Que se passe-t-il, mon cher?
Eh bien, j'ai bu ma tasse de thé vert en voulant parler. Mais non. Et pas les choses en même temps.
Oui, moi j'ai voulu manger un sandwich en parlant également, ça n'a pas fonctionné.
Et voilà, les fausses routes, voilà. Donc la vitamine D, c'est important. Alors on peut la prendre avec un verre d'eau, mais il faut que le repas qui accompagne soit un repas gras, parce qu'il faut qu'il y ait une absorption des lipides, des graisses pour la vitamine D. La mélatonine, c'est pas du tout pareil. Je vous disais, par exemple, vous avez des compléments alimentaires en perlingual, par exemple, un petit spray buccal, on met sous la langue, et ça passe très bien, tout de suite, en quelques secondes. Voilà. Donc, c'est une molécule qui a une très, très bonne absorption, tout à fait différente de la vitamine D, en effet. Bonne question, Fabrice, très bonne question.
Oui, on est là pour des fois des très mauvaises questions. Et puis, de temps en temps, la lumière jaillit et je pose une question qui n'est pas lamentable. Je rappelle que vraiment, hein, ces informations, c'est d'ordre général sur la mélatonine. On n'est pas là pour dire acheter de la mélatonine à tout va. D'ailleurs,
on
cite d'ailleurs pas de marque. Mais simplement, voilà, on tient à vous informer qu'après, on fait la médecine, la santé, c'est individuel, c'est de la personnalisation. Donc, allez voir votre médecin, faites des tests qui vous recommandent, des analyses biologiques pour savoir si oui ou non vous avez un déficit en mélatonine, si c'est adapté pour vous, etc. Donc ces informations ne se substituent pas, et on le rappelle, c'est important, à un avis médical ni à un traitement, mais vous l'avez compris, maintenant on préfère faire ceinture et bretelles, c'est beaucoup plus prudent. On va se retrouver...
D'autant plus,
oui.
Fabrice, d'autant plus que la prise de mélatonine peut s'accompagner d'effets secondaires, puisque c'est actif, hein, très très actif, par exemple les maladies auto-immunes. Voilà, on a un petit peu de doute, on ne sait pas comment la personne qui a une maladie auto-immune va réagir. Ça pourrait être très bien favorable, mais ça peut aussi être un facteur qui va amplifier l'immunité, parce que c'est très actif. Donc, il y a par exemple des crises d'asthme chez la femme enceinte. On est prudent et il y a des principes de précaution pour éviter. Donc, ne prenez pas la mélatonine sans l'avis d'un thérapeute. Fabrice, vous avez tout à fait raison. Et jouez la carte plutôt de l'optimisation de la production naturelle. Mangez mieux, bougez mieux, exposez-vous à la lumière et à l'obscurité. Prenez éventuellement une alimentation très dense en micronutriments pour éviter les carences. Et ça vous permettra d'avoir une meilleure mélatonine.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut la faire doser régulièrement quand même? Vous conseillez quoi? À partir de 50 ans, on fait ça tous les ans, ou il faut attendre des signes un petit peu avant-coureur pour dire tiens, il y a un problème?
Non, je crois que c'est vraiment au cas par cas. C'est vrai qu'avant 50 ans, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais à partir de 50, 60, 65 ans, lorsqu'il y a des facteurs, par exemple, on prend des médicaments qui peuvent perturber le métabolisme des inhibiteurs de la pompe à protons, qui baissent la vitamine B12. On peut se dire, tiens, des bilans biologiques sont intéressants. Et parmi les bilans biologiques, alors, moi, je trouve que la 6-sulfatoxymélatonine nocturne, je trouve ça très intéressant chez les travailleurs postés. Voilà, par exemple.
Merci beaucoup, mon cher Olivier. On se retrouve la semaine prochaine. C'était passionnant, comme d'habitude. Et on se dit aussi que cette émission, si vous venez d'arriver, elle est disponible en podcast tout de suite sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Olivier.
Au revoir, merci.
Retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.